Question disputée de philosophie politique par le père Samuel à Saint-Jodard, le 19 décembre 1992.
Pour alimenter votre réflexion pour la question disputée, on va continuer la topique que Frère François avait commencé en étudiant trois auteurs qui apparemment n'ont pas grand-chose à voir, mais dont on va voir qui sont tous marqués par cette deuxième grande période de la pensée politique qui commence à partir de la fin du Moyen-Âge, donc Occam, Machiavel et Rousseau. Après Aristote et Platon, qui sont quand même un grand sommet de la philosophie politique, et qui, vous l'avez vu, font un effort très net pour se distinguer de la manière dont fonctionne la cité grecque. Notamment, je crois que c'est important de souligner, à cause de ce qu'on va voir aujourd'hui, que Platon, mais surtout Aristote, à la suite de Socrate, Aristote fait un effort très important pour distinguer le fonctionnement, l'organisation de l'activité politique, de l'activité communautaire, de la dimension religieuse. Je crois que c'est très important de l'avoir à l'esprit, on ne s'en rend pas toujours compte. On s'en rend compte quand on regarde tout ce que Aristote dit du culte et la religion, et on voit qu'il est très critique. C'est-à-dire que pour Aristote, la religion ne constitue pas la communauté politique. Et il ne précise pas d'ailleurs de manière forte, si ce n'est en disant que la politique, d'une certaine manière, assume l'éthique parce qu'elle atteint un bien plus divin, c'est le seul lieu, ce problème du bien plus divin, où au fond on a une piste pour travailler sur le lien entre la dimension religieuse et la dimension politique. Mais je crois que l'effort d'Aristote est de manière très nette de penser l'organisation de la communauté politique et de penser l'activité politique de l'homme à partir de l'expérience fondamentale qu'il en a et pas en intégrant la dimension religieuse. Il vient, en ça, il se distingue des cités grecques et évidemment, il y a une référence aussi à tout l'effort des pré-socratiques pour réussir à réfléchir sur l'homme et sur le monde au-delà du mythe. Puisque le propre d'une société primitive qui vit avec une explication du monde symbolique et mythologique, c'est qu'il n'y a aucune distinction entre le religieux et le politique. Mais c'est important d'avoir ça en arrière-fond. Aristote n'explique pas l'organisation politique par un mythe religieux, ni par une justification religieuse. Et c'est pas pour rien qu'il met la contemplation en éthique et qu'au fond la dimension religieuse est très peu présente. Même si la politique est un livre dont il est possible qu'il soit inachevé, il est très peu présent. La liturgie, c'est pas franchement le souci d'Aristote en philosophie politique. Après lui, il y a la réflexion des stoïciens. Il n'y a pas une pensée philosophique très, très développée après Aristote. Et on peut dire que d'une certaine manière, c'est surtout la réflexion platonicienne qui va marquer la réflexion politique. Et c'est typique, vous voyez, avec les stoïciens, on retourne à un lien entre le politique et le religieux. Puisque l'homme est citoyen du monde et a à obéir à la providence divine, à Zeus. Et que la vraie lumière de son agissement politique, il est dans cette lumière d'universalité. Oui, j'ai dit, le stoïcien, c'est lui, Dieu et le monde. La communauté politique n'est pas considérée dans sa cohérence interne et dans la responsabilité qu'elle réclame de l'individu. Ensuite, et on va voir que ça bouleverse complètement la réflexion politique, l'avènement du christianisme pose surtout à partir de Constantin un certain nombre de problèmes. C'est symbolique, hein, la date de Constantin, mais Constantin, c'est le moment où le christianisme devient une religion officielle. Il devient une religion, la religion de l'Occident. Ça veut dire qu'à partir de Constantin, le politique et le religieux sont intrinsèquement liés. Alors, on n'a pas attendu d'y réfléchir pour le vivre. C'est-à-dire que Constantin s'est pas posé, et même les pères de l'Église de l'époque ne se sont pas posés immédiatement la question de savoir quelles allaient être les conséquences du passage d'une foi vécue par des personnes et des communautés de croyants à une foi qui devient, vous voyez, la religion officielle. Ça pose énormément de problèmes, évidemment. Ou si vous voulez, le moment où la religion chrétienne se substitue à la religion romaine. Alors, le grand penseur, et je ne veux pas le développer, mais de ce problème-là, c'est saint Augustin. Dans la Cité de Dieu, qui réfléchit sur le problème des deux cités. Alors, les deux cités, ce n'est pas l'Église et le monde. Les deux cités, c'est ce qui, dans la communauté humaine, est pour Dieu et ce qui dans la communauté humaine est contre Dieu. Oui. La communauté concrète, elle implique une cité qui est finalisée par le démon, enfin qui est gouvernée par le démon, et une autre qui est finalisée par Dieu. Saint Augustin essaye de montrer comment, et c'est la complexité, vous voyez, alors là, il n'est pas en philosophie politique, hein. Ce que fait Saint-Augustin là, c'est une réflexion sur l'économie divine. Sur le fait qu'il n'y a pas des communautés qui sont parfaitement sous l'empire de Dieu et d'autres qui sont parfaitement sous l'empire du démon. Et donc il n'y a pas d'un côté l'Église qui serait une communauté complètement sous l'empire de Dieu et de l'autre côté l'empire ou l'organisation civile qui serait sous l'empire du démon. Donc saint Augustin ne pose pas d'abord la question du lien entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, hein, c'est pas sa question. Mais indirectement, ça soulève cette question. Quel est le lien entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel? Surtout quand ce pouvoir spirituel est celui de l'Église. Alors évidemment, la question ne peut pas se solutionner aussi facilement qu'avec Aristote, parce que ce pouvoir spirituel, il est celui de l'Église. Et donc, il est divin. Et donc, j'allais presque dire, la foi, elle est intrinsèquement politique, si vous voulez. La foi, elle implique intrinsèquement la communauté. C'est ça qui n'est pas simple. La contemplation, ça n'implique pas intrinsèquement la politique. Oui, et la recherche de la philosophie, c'est pas nécessairement politique. C'est une recherche personnelle, la philosophie. Et la contemplation, c'est un acte personnel, qui n'implique pas nécessairement, qui peut avoir pour Platon des rejaillissements politiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment, à partir de ce que contemple le sage, il devrait pouvoir, selon Platon, organiser une cité politique. Et pour Aristote, la sagesse de la contemplation devrait aider celui qui a des aptitudes politiques à les affiner, à les perfectionner, à exercer sa prudence politique avec sagesse. Mais, vous voyez, il n'y a pas de dépendance immédiate. Or, la foi, parce qu'elle est liée à la charité, est liée au mystère de l'Église. Donc, la foi et la contemplation chrétienne est intrinsèquement liée à l'Église. Donc, vous voyez tout de suite le problème. Alors, il va y avoir toute une réflexion. Il y a un courant de pensée qui va s'appeler l'augustinisme politique. C'est Saint-Augustin. L'augustinisme politique, qui en fait n'est pas la pensée de Saint-Augustin, mais qui, au lieu, j'allais dire, de mener une réflexion théologique avant tout, d'économie divine sur le bon grain et l'ivraie, parce que c'est ça le problème de la cité de Dieu et de la cité des hommes, c'est le bon grain et l'ivraie. C'est le fait que dans la communauté politique, il y a du bon grain et l'ivraie. L'augustinisme politique, il va surtout réfléchir sur le lien entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, sur ce qu'on appelle le problème des deux glaives. Vous savez, c'est le fameux problème de Saint-Pierre, qui au moment de la passion, je crois que Jésus lui dit qu'il faut prendre le glaive, alors il dit, mais il y a deux glaives là. Jésus lui dit, mais ça suffit bien. Puis c'est le problème de Pierre qui prend le glaive et qui coupe l'oreille du serviteur. Est-ce qu'il avait à le faire ou pas à le faire? Parce que le glaive, c'est pas le pouvoir spirituel. C'est le pouvoir temporel. Dans quelle mesure Pierre a-t-il le droit d'user du pouvoir temporel pour couper l'oreille du serviteur? C'est ce qu'on appelait ça la doctrine des deux glaives, qui essaye de réfléchir sur, encore une fois, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Je ne développe pas théologiquement, peut-être que c'est une très mauvaise manière de poser le problème. Mais ça, je le laisse. Alors, c'est évident que c'est un problème qui n'est pas simplement théologique, ni même, j'allais dire, la philosophique, c'est un problème concret. C'est-à-dire, quel est le pouvoir de l'empereur sur le pape ou du pape sur l'empereur? Et puis, évidemment, au fur et à mesure que l'Église grandit, se développe une réflexion sur la cité de Dieu, en fait partie, sur l'Église. Donc il y a une réflexion ecclésiologique sur ce que c'est que l'Église. Donc sur ce que c'est que la communauté qu'est l'Église. Donc si vous voulez, la théologie de l'Église réclame, présente en elle une philosophie politique. Alors, on ne développe pas la philosophie politique pour elle-même, mais la réflexion sur l'Église, elle est marquée par la vision politique qu'on a. Alors, ça ne pose pas trop de problèmes quand la réflexion sur l'Église, j'allais dire, est très proche de l'Écriture. À la manière, par exemple, de saint Ignace d'Antioche. Parce que c'est surtout lui qui a beaucoup travaillé sur l'Église. Et puis, à la manière, d'une certaine manière, d'une grande partie des pères de l'Église. Mais dès qu'il s'agit d'une théologie plus spéculative, c'est évident qu'il y a une philosophie politique sous-jacente. C'est une des raisons pour lesquelles saint Thomas commente la philosophie politique d'Aristote. La politique d'Aristote. Le fait que saint Thomas commente la politique d'Aristote montre bien qu'il distingue la philosophie politique et qu'il reconnaît que la philosophie politique est nécessaire et que la philosophie, j'ai dit, une théologie de l'Église ne suffit pas. Alors, ce qui est intéressant chez Occam, on va le voir, c'est que Occam met en lumière la dépendance extrêmement étroite, et ça c'est tout à fait nouveau, entre la philosophie de la connaissance et même la métaphysique, et la philosophie politique. Vous voyez, quand Aristote développe sa philosophie politique, on ne voit pas la métaphysique très présente, à première vue. On ne voit pas la philosophie du vivant extrêmement présente. On ne voit pas la philosophie de la connaissance très présente non plus. On voit l'éthique. J'ai dit, on a tort de ne pas la voir très présente, parce que c'est comme toujours, c'est le propre, j'allais dire, d'Aristote. Le réalisme de son regard sur la personne humaine, il est présent en philosophie politique. Et le propre de Occam, j'allais dire, c'est que, précisément en développant, on va le voir, une philosophie de la connaissance, une métaphysique, qui est complètement différente d'Aristote, on va commencer à voir que ça a des répercussions immédiates en philosophie politique. C'est ça qui est important, vous voyez, c'est de voir que la philosophie politique, l'expérience politique est indépendante, autonome d'une certaine manière, par rapport à l'expérience éthique, par rapport à l'expérience artistique. Mais la réflexion de philosophie politique, si elle n'a pas le réalisme de l'éthique et de la métaphysique, est une réflexion qui dévie complètement. Alors c'est ça que je vais essayer de vous montrer. C'est la dépendance chez Occam, Comment est-ce que la perte de la finalité et la perte du sens de l'être chez Occam va avoir des conséquences du côté de la philosophie politique? Et en ça, c'est une clé, parce que on va le voir après, toute la philosophie politique qui suit, jusqu'à quasiment jusqu'aux penseurs contemporains, jusqu'à quelqu'un comme Hannah Arendt, est une philosophie politique, on va le voir, qui est coupée de la finalité. On va voir que Occam développe une pensée qui est essentiellement du côté de l'efficience. Et on va voir du côté politique apparaître la notion de pouvoir, et puis du tout de finalité. La question est de savoir qui a le pouvoir sur qui, et pas qu'est-ce que le bien commun. Vous voyez, c'est pas du tout le même type de question. Alors, les problèmes politiques dont part Occam, c'est une réflexion sur ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église par rapport aux chrétiens ?
Mais donc, j'allais dire, le problème dont part Occam, la problématique d'Occam, c'est le lien entre l'Église et le croyant. C'est le lien entre l'Église et l'Empire. Par derrière, de manière plus concrète, c'est le lien entre, évidemment, le pape et l'empereur. La vie d'Occam, elle est marquée par ces conflits-là. C'est aussi, alors indirectement, le lien entre le prince et le peuple. Ça, ce sont les problèmes concrets dont part Occam.
Alors ensuite, comment est-ce qu'il les résout ? Bien, il les résout en se servant, non pas en partant de l'expérience, mais en se servant d'un regard marqué par toute sa vision métaphysique. Alors, quelle est la vision ? Là-dessus, je m'appuie sur le travail qu'a fait M. de Muralt, là-dedans, qui s'appelle « Souveraineté et pouvoir », et où il a très bien montré comment est-ce que... Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il y a aussi de Muralt et Lagarde. Ont tous les deux montré de manière très forte comment est-ce que toute la vision de l'Église et donc la vision politique d'Occam sont immédiatement dépendantes de sa vision sur l'être. Pour Occam, le lien entre la connaissance et son objet, même le lien entre l'intelligibilité et le sujet, n'est pas un lien intrinsèque. Dieu peut faire que la connaissance de l'objet existe sans l'objet. Le lien entre la connaissance et l'objet, comme le lien entre l'intelligibilité et le sujet, est un lien voulu par Dieu. Dieu, dans sa toute-puissance, a voulu que ma connaissance corresponde à l'objet. Mais il aurait pu faire que ma connaissance ne corresponde pas à l'objet. Dieu a voulu, dans sa toute-puissance, que l'intelligibilité corresponde au sujet. Mais il aurait pu faire, dans sa toute-puissance, que l'intelligibilité ne corresponde pas au sujet. Donc ça veut dire que l'unité entre la connaissance et l'objet, entre l'intelligibilité et le sujet, dépend de la toute-puissance divine. C'est pas vrai ? Vous partez d'une philosophie des possibles. Dieu, dans sa toute-puissance, des potentia, ce qu'on appelle des potentia absoluta, dans sa puissance absolue, aurait pu faire que la connaissance et l'objet ne coïncident pas. Ce qui veut dire, au passage, c'est ça qui est capital, que la connaissance et l'objet, la connaissance de l'objet et l'objet ne sont pas intrinsèquement une. Elles ne sont pas une par elles-mêmes. Le lien entre l'intelligibilité, oui, plus que le sujet, l'intelligibilité et la substance, n'est pas intrinsèquement une. Vous voyez, elle n'est pas une par elle-même, elle est une par la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le fait que quand vous disiez c'est une table, il y ait par-dessous quelque chose qui soit une table, ça c'est la puissance divine qui a permis ça. Mais c'est pas en fonction de ce qu'est la table, vous voyez. C'est Dieu qui a fait que ça coïncide. Ce qui veut dire d'ailleurs que Dieu est déjà la clé, enfin vous voyez déjà Descartes, c'est-à-dire que c'est Dieu, c'est la toute-puissance divine qui est la clé de l'unité entre la pensée et le réel. Donc si vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a pas de raison de croire que la pensée est liée au réel. Ou si vous faites abstraction de Dieu, parce que vous voulez vraiment philosophe, il n'y a pas de raison d'avoir l'a priori que la pensée correspond au réel. Vous n'en savez rien si c'est une table. Parce que vous avez la foi, vous y croyez, parce que Dieu vous garantit que c'est une table. Mais ce n'est pas la table qui vous dit qu'elle est une table. Vous voyez, je veux dire, l'intelligibilité, elle ne vient pas d'elle-même du réel. C'est rien, hein, mais j'allais dire, c'est tout le changement, c'est tout le passage à toute la philosophie occidentale. Enfin, du moment où il y a un soupçon introduit entre l'unité réelle par elle-même, entre l'intelligibilité et l'être, c'est fini.
Et entre l'intelligibilité et l'être. Entre la quidité, entre l'eidos, exactement pour poser la question en termes aristotéliciens, entre l'eidos et l'ousia, parce que c'est ça son problème à Aristote, dans la métaphysique. Entre l'eidos et l'ousia, c'est précisément quand Aristote parle de quidité, le but de la quidité, c'est de montrer que l'eidos est présent dans l'existence. Que l'intelligibilité, elle ne vient pas d'abord de ma tête. Elle est abstraite du réel. Donc elle est du réel, l'intelligibilité. C'est l'intelligibilité du réel, de ce qui est. D'accord ? Aristote se pose cette question-là, mais il y répond. Occam y répond en disant que c'est une unité qui est voulue par Dieu. Ce qui veut dire qu'il aurait pu faire autrement. Alors, de la même manière, il y a un autre lieu où ça a des conséquences, entre la volonté et le bien. C'est la même chose. C'est Dieu qui a voulu que la volonté, elle soit finalisée par le bien, mais elle pourrait l'être par le mal. Ce ne serait pas moins la volonté. Donc la volonté n'est pas intrinsèquement finalisée par le bien. C'est bien parce que je le veux. C'est pas parce que c'est bien que je le veux. Vous voyez ? Donc la volonté, elle n'est pas attirée par le bien d'elle-même. Si la volonté est conçue comme une capacité d'efficience. Et l'efficience, elle n'est pas déterminée autrement que par elle-même. Cette efficience, Dieu a voulu qu'elle ait pour finalité le bien. Oui, c'est aussi la notion de volonté comme efficience. Alors, ça serait compliqué de montrer comment est-ce que, si Occam développe une pensée comme ça, qui est un peu bizarre, c'est par réaction à Dean Scott. Parce que Dean Scott est le premier, alors, c'est le premier essentialiste. Avec Dean Scott, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au fond, je n'atteins jamais vraiment un au-delà de l'intelligibilité, pour Dean Scott. Vous voyez, je ne dépasse jamais ma connaissance. Vous voyez, quand Aristote dit ce qu'il appelle le todétis, c'est-à-dire que ceci, c'est une réalité déterminée singulière. Eh bien, Dean Scott dit, la singularité des choses, c'est encore quelque chose qui est du côté de l'intelligibilité. Vous voyez, pour Dean Scott, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme, enfin, c'est l'origine de l'essentialisme. Toute la scolastique, elle est devenue essentialiste. Qui est précisément de dire qu'au fond, vous voyez, quand je pense à la réalité singulière, je le pense encore, donc ce n'est pas encore la réalité. Donc au fond, j'atteins vraiment jamais quelque chose qui est au-delà de l'intelligibilité. Et d'une certaine manière, l'intelligibilité de la singularité des choses, c'est ça le réel.
Alors, je ne vais pas le développer, mais c'est aussi une question qu'a posée. Aristote s'est posé exactement les mêmes questions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont travaillé un peu la métaphysique. Quand il dit, il réfléchit sur les eidos. Bon, par exemple, les eidos d'homme. Puis il dit, bon, je sais très bien. Mais là-dedans, vous en avez plein des petits eidos. Parce que l'homme, il est raisonnable, ou il a un corps. Et il y a une eidos pour corps, il y en a une autre pour raison. Et puis, par exemple, il marche. Et puis, il imagine. Alors, vous voyez, comment se fait le lien entre l'eidos central et puis les autres? Aristote va demander ça, c'est au fond. Vous voyez, qu'est-ce qui fait l'unité entre l'eidos homme et puis les autres? Est-ce que l'eidos homme, c'est une espèce de rassemblement de toutes les autres petites eidos? Vous voyez, c'est vrai, vous réfléchissez à ce que vous êtes. Bon, je suis un homme, d'accord. Et puis j'ai une tête, j'ai un bras, j'ai un pied, j'ai une pensée, j'ai une imagination, j'ai une capacité de manger. Mais qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça? Mais comment s'intègrent les choses les unes dans les autres? Ça, c'est la question de Duinscott. Et il dit, c'est l'essence qui rassemble toutes les autres. Alors nous, on dira non, l'unité, c'est exactement la question d'Aristote. Qu'est-ce qui fait l'unité? C'est pas du côté de l'eidos que je vais comprendre ce qui fait l'unité, c'est du côté de l'être. Aristote, il vous dirait, arrêtez de regarder dans votre tête, regardez dans le réel. C'est un dans le réel. Par abstraction, vous les distinguez. Mais la distinction par abstraction correspond à une unité dans le réel. C'est une distinction de raison. D'accord? Duinscott ne réfléchit pas comme ça. Lui, il cherche du côté, il continue de réfléchir du côté de sa pensée. Comment ça se fait que ça soit un? Parce que du côté de ma pensée, il n'y a pas de raison que le pied soit lié à la pensée. Oui, vous avez un pied et vous pensez. Mais en soi, du côté de la réflexion, il n'y a pas de raison que le pied soit lié à la pensée. Mais en vous, c'est lié. Quand vous jouez au football, le pied est lié à la pensée. Les animaux ne jouent pas au football. L'intelligence est dans le pied quand je joue au football. De facto, l'intelligence et le pied sont liés parce qu'il y a une unité vitale, une unité d'être entre l'âme et le corps. Mais ça, c'est pas le problème. Duinscott, il réfléchit du côté de la pensée. Alors vous voyez, pour Duinscott, ce qui fait l'unité, c'est ce qu'il appelle c'est l'essence. Il y a une essence qui rassemble toutes les autres. Et Occam, il ne dit pas du tout. Ce qui fait l'unité, c'est la volonté divine. Vous voyez, c'est un peu abstrait. Mais c'est exactement toutes les questions que s'est posé Aristote. Proust n'était pas si bête. Qui est effectivement comment les choses sont une et multiples dans le réel. Vous voyez, c'est de m'obliger. Alors on va voir, vous allez me dire, tout ça c'est des spéculations, ça n'a pas beaucoup de conséquences pratiques. Bah si, on va voir que ça a des conséquences extrêmes du côté politique. Parce que quel est le lien entre moi et l'autre? Parce que c'est ça la communauté. Comment je fais pour vivre ensemble? Vous voyez, qu'est-ce qui rassemble la communauté? Est-ce que c'est des individus rassemblés par la toute-puissance divine? Est-ce que c'est des individus qui sont absorbés dans une essence commune? Vous voyez, on est la communauté. Et moi, je suis une participation de la communauté. Ou bien est-ce que moi, c'est moi, l'autre, c'est l'autre, et je ne serai jamais lui, il ne sera jamais moi, et je suis là que parce que Dieu me l'a demandé? Vous voyez? Est-ce que je suis à côté de l'autre par volonté divine? Ou est-ce que je suis une partie de l'autre? Vous voyez, les deux extrêmes. Ça a des conséquences pratiques de la manière d'obéir et de gouverner. Donc vous voyez, j'allais dire, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui fonde l'unité entre la connaissance et son objet, entre la volonté et le bien, et donc entre les individus dans la communauté? Qu'est-ce qui est fondement de l'unité? Aristote répond l'être. Ce qui n'est pas commode d'ailleurs, parce que saisir ce que c'est que l'être, l'être de la communauté, c'est quoi? Ça, c'est notre question pour après. Alors, Occam, il tranche en disant ce qui fait l'unité de la communauté, c'est la volonté divine. Et la volonté divine, elle se manifeste à travers celui qui la gouverne, la communauté. Mais vous voyez, c'est aussi capital. Celui qui gouverne, il est la clé de voûte d'une unité qui n'existe pas par elle-même. Vous voyez le problème ? Le prieur, par exemple, il est celui qui est principe d'unité d'individus qui, en eux-mêmes, n'ont aucune capacité à être unifiés. Vous voyez, quand la règle de vie dit que le prieur, il est gardien de la communion fraternelle, ça ne veut rien dire pour Occam. Ou alors, dans une vision, à la manière de Dean Scott, celui qui a l'autorité, il est l'incarnation vivante de l'unité des individus. Oui, c'est comme l'incarnation de l'essence. Oui. Il est la manifestation visible de la communion. Oui. Ben, dans le cas d'Occam, il est principe, au sens où c'est lui qui unifie. Mais il y a une discontinuité réelle entre cette unité dont il est gardien et les individus. Tu vois, c'est une unité par agrégation. C'est pas une unité par relation. D'accord ? Et dans l'autre cas, il est principe au sens absolu, d'une certaine manière. Dans le cas d'un Scott, c'est l'inverse. C'est-à-dire que celui qui est principe, prince, premier, il est source de manière absolue. Lui, si tu veux que passe l'essence, enfin pas l'essence, que passe l'essence de la communauté. Ou si vous voulez pour le poser d'une autre manière, c'est le problème de la médiation. Si celui qui gouverne, vous voyez. L'Eidos qui rassemble toutes les autres, elle est médiatrice. Eh bien, celui qui gouverne peut être médiateur de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il est immédiatement sous le pouvoir divin. Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune médiation, c'est le cas d'Occam, il n'y a aucune médiation parce qu'il n'y a aucune relation entre les individus. Je vais vous relire un petit texte. L'individu ne peut pas entrer en relation avec un autre individu. L'individu est absolument individuel. La relation, elle ne peut être qu'extérieure à lui. Elle ne peut pas être intrinsèque à lui. Vous voyez, Occam absolutise l'individu. Pas l'individualisme au sens subjectif, mais l'individu au sens métaphysique. Je vais vous lire un petit texte. Ensuite, donc ça, si vous voulez, c'est pour comprendre quelle est la vision d'Occam sur l'unité. Ensuite, on va voir les conséquences qu'il y a sur le gouvernement, sur la manière de gouverner, puisque c'est les deux éléments. Philosophie politique, il y a besoin de savoir ce qu'est la communauté et de savoir ce que c'est que de gouverner. D'accord ? Quel est le sujet politique ? Vous voyez, quelle est la réalité de la communauté politique ? Et puis, comment est-ce que je la gouverne ? Alors, je vais vous lire un petit passage de Lagarde, qui résume bien ça. Il est enfin un dernier élément capital de son ecclésiologie qui nous renvoie également à ses conceptions métaphysiques. Nous voulons parler de sa définition de l'Église et de tout ce qu'elle implique. Il y a de l'obstination et presque de la cécité volontaire dans le parti pris de refuser tout ce qui pourrait nous conduire à voir dans l'Église autre chose qu'une somme de chrétiens individuels. Mais ce parti pris et cet aveuglement sont commandés par la vision occamiste du réel. Nous avons montré que l'essence de la nouvelle philosophie avait été de substituer à l'ontologisme, ça c'est Dean Scott, une vision ontiste du monde. Nous avons montré le souci d'Occam de décomposer l'univers en une juxtaposition de réalité positive absolue. Alors, il cite des passages d'Occam. « Je disais, écrivait-il dans son commentaire sur les sentences, que la relation n'est pas le fondement, mais seulement une intention ou un concept mental évoquant plusieurs réalités. » Donc, vous voyez, il n'y a pas de relation entre les réalités. C'est purement de raison, la relation. « Ou bien elle est plusieurs absolus comme un peuple et plusieurs hommes, et comme aucun homme isolé n'est un peuple. » L'ordre et l'unité de l'univers n'est pas une réalité relative. Ce n'est pas une sorte de chaîne unissant les corps ordonnés les uns aux autres dans l'univers. Les choses unifiées dans la réalité ne sont que de multiples réalités distinctes qui font dans le réel un seul ensemble. Oui, on est en maths. C'est vrai, c'est une pensée, encore une fois, on va voir, elle est logique, donc elle est virtuellement mathématique. Nous n'avons pas besoin de nous demander si ces conceptions sont vraiment nominalistes, ni si elles sont ou non discutables sur le plan philosophique. Nous constatons seulement que si on les applique à la rigueur, à la définition de l'Église, on est immanquablement amené à nier les réalités extra-individuelles qui créent précisément entre les chrétiens ce lien que l'on refuse d'accepter comme réalité indépendante. Alors, ça a des conséquences évidemment du côté de la loi. Vous voyez, c'est la même chose, la loi, elle ne vient pas... Il n'y a pas d'immanence de la loi. La loi, elle s'impose comme une réalité extrinsèque. Je vais vous lire un dernier petit passage. L'aspect le plus important de cette doctrine, alors du côté de l'efficience, vous voyez, là on passe de la réalité de ce qu'est la communauté à l'aspect de l'efficience, est la théorie du bonum quia volitum. C'est bon parce que c'est voulu. Le bien n'est pas une manifestation de l'être éternel de Dieu. Le bien n'est tel que parce que Dieu l'a bien voulu, et ne reste tel que tant que Dieu ne dit pas le contraire. Donc c'est par décret divin que ce bien est le bien. On sait qu'Occam tient tellement à ce principe qu'il croit devoir l'éclairer par l'exemple absurde, mais significatif, d'un Dieu qui nous ordonnerait de le haïr et ferait du même coup de cette haine un acte méritoire. Ouais, faut quand même pas mal travailler pour imaginer des choses comme ça. On trouve dans les œuvres polémiques d'Occam de nombreuses applications de cette position fondamentale. C'est parce que Dieu l'a expressément voulu que l'on doit accepter la monarchie pontificale, que la raison déconseillerait souvent. C'est parce que Dieu l'a voulu que l'Empire est le seul gouvernement assuré de la légitimité. C'est parce que la volonté de Dieu est notre seul recours que nous pouvons accepter sans crainte l'hypothèse où tous les clercs apostasieraient, assurés où nous sommes de la possibilité qu'aurait Dieu de nous sauver quand même et de reconstruire son Église. Vous voyez, au fond, l'Église n'est sainte que parce que Dieu l'a voulu. Mais elle n'est pas sainte par elle-même. De là va découler la position de Guillaume d'Occam à l'égard du droit naturel. Écoutons-le dans ses œuvres philosophiques, tantôt nous affirmer que le droit est une décision arbitraire, tantôt nous rappeler la vénération que nous devons vouer à la volonté divine, telle qu'elle s'exprime hic et nunc, dans la nature. Donc vous voyez, la volonté de Dieu, elle est arbitraire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, les choses sont comme ça parce que Dieu les a voulues, mais pas parce que Dieu les a voulues au sens où il y aurait une sagesse immanente qui est reflet de la sagesse de Dieu, mais par décret divin. Oui, la manière d'obéir n'est pas tout à fait la même dans les deux cas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de distinction pour lui entre le droit divin et le droit naturel. Sans vous parler du problème qu'il pourrait y avoir entre la nature et la grâce. C'est clair que tout bouge à partir de ça. Oui, j'allais dire c'est tout bête, mais une petite distinction métaphysique fait que tout change. Alors, ce qui est clair, c'est que du coup, la manière de gouverner ne va pas être en comprenant ce qu'est le bien et en servant le bien commun. Parce que présentement, l'homme n'a pas de possibilité de comprendre ce qu'est le bien par lui-même. Et donc, au fond, ce qui est garant, si vous voulez, de l'unité de la communauté, si c'est le pouvoir, c'est plus le bien commun. Parce qu'il n'y a pas de bien commun, si ce n'est le pouvoir de celui qui dirige. Vous voyez ? Parce qu'au fond, le seul qui est gardien de l'unité de la communauté, c'est Dieu. C'est parce que Dieu a voulu que cette communauté existe qu'elle existe. Et qu'est-ce qui est garant de l'unité de cette communauté de la part de Dieu ? C'est l'autorité, puisque l'autorité, elle est divine. Alors il s'appuie sur l'épître aux Romains. qui nous dit de recevoir ce qui dirige, que toute autorité vient de Dieu. Vous voyez, c'est plus du tout l'autorité, c'est le pouvoir, mais s'appuyant sur le fait que toute autorité, elle vient de Dieu de facto, puisqu'elle est permise par Dieu. Et s'il n'y a pas de distinction entre sa permission et sa volonté, les permissions et la volonté de Dieu, bien, celui qui dirige, il a l'autorité divine, de facto. Et donc, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on verra que c'est ce que Machiavel développe. S'il n'y a pas de lien intrinsèque entre la connaissance et l'objet, pour agir sur les choses... Comment je fais pour agir sur les choses? Parce que je ne peux pas agir sur les choses en les comprenant en elles-mêmes. Je ne peux agir sur les choses qu'en agissant sur la connaissance, c'est-à-dire c'est la logique. Je dis, c'est cohérent, vous voyez, c'est plus... L'intelligence, pour agir sur les choses, l'intelligence n'est pas intéressante dans sa connaissance du réel, puisque je n'en ai pas. Pour agir sur les choses, c'est la logique de la connaissance qui est importante. Vous voyez, il y a un parallélisme entre la logique de la connaissance... et la logique du réel, c'est ça le nominalisme. Il y a un parallélisme voulu par Dieu, il y a une coïncidence voulue par Dieu entre la logique de la connaissance et la logique du réel. Comme je ne peux pas avoir une logique de la connaissance à partir de la connaissance du réel, par abstraction, ce qu'on fait nous, eh bien je vais appliquer la logique de la connaissance au réel. Vous voyez, j'ai une vision politique qui est une vision du fonctionnement politique. L'essentiel, c'est le fonctionnement politique. C'est ça qui fait l'unité de la politique. Enfin, pardon. C'est ça qui permet de mettre en œuvre l'unité politique. Vous voyez, c'est l'exercice logique et technique du pouvoir politique qui fait l'unité politique. Alors, rapidement, je le redévelopperai peut-être tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que Rousseau réfléchit d'une certaine manière exactement dans les mêmes termes, même si sa solution est différente. Et j'allais dire, lui, il aura une pensée, une manière de penser qui est beaucoup plus, encore une fois, dans une ligne de pensée qui est celle de Duinscott. Rousseau, il vient après la réforme. Donc il vient après cette grande secousse qui a souligné, à la manière de la réforme, que l'homme était intrinsèquement mauvais et que l'autorité ecclésiale, et donc toute autorité, était suspecte. Alors ça, c'était virtuel chez Occam, vous voyez. Mais Occam, j'allais dire, il verrouillait encore les choses. Rousseau, il vient après ça, il est protestant Rousseau. Et donc sa question, c'est de savoir comment garantir l'unité politique alors que l'homme est mauvais. Alors je vais dire, pour lui, c'est pas que les individus peuvent pas exister les uns à côté. C'est pas qu'il n'y ait pas d'unité entre les individus, mais cette unité, elle est intrinsèquement mal vécue. Donc c'est pas possible qu'il y ait une unité naturelle, si vous voulez. Enfin, en soi, il devrait y avoir une unité naturelle, mais de facto, comme l'homme est pécheur. Le fonctionnement politique habituel de l'homme, c'est l'opposition, c'est pas l'unité. Donc il y a un constat, si vous voulez, de le fonctionnement politique de l'homme laissé à lui-même, il finit par le mal. Il est nécessairement mauvais et il corrompt l'homme. C'est la société et le fonctionnement et le fait que l'homme est dans la société qui corrompt l'homme. Alors, ce qu'il ne faut pas simplifier les choses, le bon sauvage, il ne faut pas simplifier. Ça ne veut pas dire que si on prend un homme et qu'on le laissait dans une petite île, il serait gentil. Ça, c'est simpliste. C'est pas ça que veut dire Rousseau. Vous voyez, Rousseau, j'allais dire à la manière d'un Montelegin qui s'ignore, vous voyez, il distingue entre l'état de nature et puis l'état de péché. Alors, dans l'état de nature, l'homme aurait été naturellement heureux, vivant en compagnie des autres de manière bien heureuse. Et ceux qui en sont un tout petit reflet, c'est les bons sauvages, mais c'est qu'un tout petit reflet. C'est vrai, c'était impressionnant pour eux de découvrir des gens qui étaient infiniment moins civilisés qu'eux, c'est quand même les grandes découvertes de l'époque, mais qui en fait avaient l'air plus heureux. Et c'est vrai que c'était impressionnant pour un occidental de s'apercevoir qu'il était soi-disant civilisé et qu'il se comportait bien plus sauvagement que les dits sauvages.
Alors, le problème de Rousseau, j'allais dire, c'est de savoir comment sauver l'état de péché. C'est ça qu'il pense en termes, inconsciemment, hein, mais il pense en termes tout à fait théologiques. Comment passer à un état qui soit un état qui récupère l'état de nature, mais qui soit pas, qui peut pas être l'état de nature, qui soit un état sauvé. Ben, c'est l'invention du contrat social. Vous voyez, ce que Occam disait du côté métaphysique, que les individus ne peuvent pas être unis les uns aux autres, Rousseau, il le pense du côté moral. Et donc, il cherche une astuce juridique qui va permettre que, j'allais dire, la volonté individualiste de chacun soit dépassée et en même temps respectée. Et c'est l'invention du contrat social. Le contrat social, c'est que chacun renonçant à sa volonté propre pour la volonté générale, du coup, chacun, j'allais dire, est en même temps, du coup, la volonté générale devenant sa volonté propre, il réalise sa volonté propre. C'est-à-dire qu'au fond, il suffit que chacun, j'allais dire, le renonce à sa volonté particulière, puisque c'est ça qui fait l'opposition entre les hommes, pour décider, c'est légal, hein, c'est-à-dire, c'est pas de soi qui décide, c'est par décision commune. D'adopter la volonté générale en renonçant définitivement à sa volonté particulière. Du coup, la volonté générale devient volontairement sa volonté particulière, par contrat. Du coup, il réalise en même temps la volonté générale et sa volonté particulière. Donc tout le monde est heureux. Vous voyez, c'est très logique. C'est très séduisant même. Et ça remplace le bien commun. Vous n'avez plus de bien commun. Puisque votre bien personnel, ça devient le bien commun. C'est la logique, enfin pardon, mais c'est la logique appliquée de tous les totalitaristes. C'est-à-dire que renoncez à votre volonté personnelle pour adopter la volonté commune. Du coup, la volonté commune devenant votre volonté personnelle, vous serez heureux personnellement. Donc vous voyez, le problème, c'est le lien entre la personne et la communauté. Alors, d'une certaine manière, on voit bien, vous voyez, qu'effectivement, Dean Scott, il est derrière, enfin, via tous les intermédiaires. Mais qu'au fond, alors je vais vous relire les petits, mais on le lira tout à l'heure, je vous lirai les petits passages de Rousseau. On voit bien qu'au fond, non pas la communauté, mais l'engagement des individus par le contrat social constitue une unité, qui est une unité, j'allais dire, qui est celle du corps mystique, si vous voulez, qui est une unité de grâce, qui est une unité qui va devenir plus fondamentale et plus réelle pour tous les individus que leur propre personne. C'est très intéressant de voir qu'au fond, Rousseau propose de manière légale et du côté civil ce que réalise le corps mystique. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a un état de grâce, du coup, vous voyez ? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une communion entre les personnes, qui soit une communion où effectivement chacun renonce à sa volonté propre pour entrer dans une volonté supérieure ? C'est le corps mystique. Et effectivement, en plus, c'est parfaitement juste et logiquement, c'est-à-dire que l'unité de l'humanité dans l'état de nature, sauvée, ça donne le corps mystique. C'est exactement ce que montre Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et qu'effectivement, le péché comme tel, et l'Ancien Testament est bien là pour le montrer, ne peut pas permettre de réaliser le bien commun. On peut réaliser qu'un bien particulier. Vous voyez, donc pour réaliser le bien commun, il faut la grâce. Et Rousseau, il invente, j'allais dire, ce qui est au fond le moyen de la grâce, qui s'appelle le contrat social. C'est très... Enfin, vous voyez, je simplifie un peu, hein, mais ce qui m'intéresse chez Rousseau, c'est moins le détail technique, parce qu'après ça, il va montrer, parce qu'il est intelligent, il va monter, j'allais dire, il va y avoir un montage politique autour de cette idée centrale. Mais c'est ça, l'intuition fondamentale de Rousseau. J'allais presque dire, vous voyez, il crée une église civile. Je simplifie, hein. Mais c'est ça, c'est qu'il crée une église civile. C'est très intéressant parce que vous voyez, d'Occam à Rousseau, la naissance de la laïcité. Le contrat social, ça marche mieux que l'église. Puisque précisément, chacun des individus y est heureux et ne vit pas sous une autorité tyrannique pontificale. Vous voyez, c'est le lien parfait, le contrat social de Rousseau, c'est le lien, c'est la fusion complète entre une démocratie absolue et, on va le voir, une monarchie absolue. Ce qu'est l'Église, effectivement. Dans l'Église, chacun par son baptême participe immédiatement à la souveraineté divine, ça s'appelle le sacerdoce royal des fidèles, ça s'appelle pas royal pour rien. Et en même temps, La manifestation de cette unité commune, elle est dans en Jésus-Christ qui en est la tête et le roi, et visible en son vicaire qui est le pape. C'est très intéressant de voir que vous avez à l'envers une théologie qui est juste. C'est ça. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous voyez, de voir le moment où vous voyez déjà mis en œuvre du côté philosophique une pensée qui en fait est une pensée théologique qui s'ignore. C'est ça qui me semble très intéressant. Alors, ce qu'il faudrait voir, c'est de Rousseau à Hegel. Ça serait très intéressant. Et de voir comment Hegel, d'une certaine manière, synthétise Occam et Rousseau. Parce que la clé chez Hegel, c'est l'État. Enfin, on le reverra. La clé chez Hegel, c'est l'État. Vous voyez, parce que, ou bien vous avez une primauté du côté. De toute façon, il y a un choix à faire. Ou bien vous avez une primauté du côté du peuple, ou bien vous avez une primauté du côté de celui qui dirige. Alors, l'avantage de Rousseau, c'est de dire c'est le peuple qui dirige. Vous voyez, pas par une démocratie à la manière d'Aristote, pas par une démocratie où on fait des référendums, si vous voulez. Même si le référendum, c'est la manifestation de la volonté commune. Mais d'une certaine manière, il y a une harmonie absolue entre celui qui dirige et ceux qui sont dirigés. Enfin, elle n'est pas absolue dans l'exercice, mais idéalement, elle est absolue pour Rousseau. Et puis, la vision d'Hegel sera exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'incarnation de cette volonté commune, ça s'appelle l'État. Et que c'est par la renonciation de sa volonté particulière pour le bien de l'État, pour l'État, qu'au fond, l'homme devient vraiment citoyen. L'entrée dans la maturité politique pour Hegel, c'est le renoncement de la volonté particulière pour la volonté étatique. C'est très bizarre, vous voyez. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez bien que les questions posées par Aristote du côté de la philosophie politique sont toutes présentes, mais qu'en plus, elles renvoient à la dépendance de la philosophie politique à l'égard de la métaphysique. Et puis, ce qui apparaît aussi de manière sous-jacente est que, j'allais dire, Aristote avait évité, qui n'apparaît pas dans son analyse, mais qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus éviter, c'est le problème du lien entre l'aspect religieux et l'aspect politique. Alors, vous voyez bien qu'il y a un enjeu derrière. C'est qu'est-ce que vient faire Dieu par rapport à la politique? Ça, c'était la question des civilisations pré-philosophiques, et c'est la question des civilisations en chrétienté. Et donc, j'allais dire, c'est une question que nous ne pouvons pas ne pas aborder. Donc, on ne peut plus se contenter uniquement de ce qu'a fait Aristote. Même s'il faut refaire ce qu'il a fait, et essayer de le comprendre le plus intelligemment possible, et voir comment, du côté des principes, on n'a rien à inventer. Mais il y a des questions nouvelles, et notamment celle-là. Quel est le lien entre l'aspect religieux et l'aspect politique? Et puis, question théologique par derrière, quel est le lien entre le mystère de l'Église et le pouvoir temporel? Ça, c'est pas pour dans trois